Allô, allô, ici Ciné Harry.
En 1952, le metteur en scène américain Joseph Mankiewicz met en scène un film d'espionnage, Five Fingers, qui s'intitulera en France L'affaire Cicéron. La musique est signée du célèbre compositeur Bernard Herrmann, qui attacha son nom à nombre de films d'Alfred Hitchcock. Il s'agit d'une adaptation libre de l'ouvrage publié par Ludwig Karl Moisisch, un attaché commercial de l'ambassade d'Allemagne qui se trouvait en poste à Ankara en 1943. Mais sous cette couverture, il dirigeait en fait les services secrets allemands opérant en Turquie. À ce titre, il a en effet réellement vécu l'histoire portée dans ses grandes lignes à l'écran. Michael Wilson, qui écrivit l'adaptation à partir de l'ouvrage de Moisisch, l'affaire Cicéron, reçut en 1953 le prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario. Le personnage principal, Diello, valet de chambre de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Ankara, est interprété par l'immense comédien britannique James Mason, qui incarnera notamment l'année suivante Brutus dans le Jules César de Mankiewicz, puis en 1954, il sera à l'affiche d'Une étoile est née, A Star is Born, de Georges Cukor et de 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer. En 1959, on pourra le retrouver aux côtés de Cary Grant dans le célèbre film d'Hitchcock La mort aux trousses, North by Northwest. Et en 1962 dans Lolita de Kubrick, adapté du roman éponyme de Vladimir Nabokov. Pour ne citer que quelques titres qui s'inscrivent dans une filmographie aussi considérable que prestigieuse. Dans cette œuvre, James Mason a pour partenaire principal la comédienne Danielle Darrieux, qui joue le rôle de la comtesse polonaise Anna Slavicka. En 1952, cette artiste française affiche déjà une filmographie très riche, tant elle a accumulé les rôles au cours des 20 premières années de sa carrière. Mentionnons simplement parmi de nombreuses autres œuvres quelques films devenus des classiques. Katia de Maurice Tourneur, puis en 1949, on la découvre dans Occupe-toi d'Amélie, une réalisation de Claude Autant-Lara, adaptée de la pièce éponyme de Georges Feydeau. Enfin, en 1950, elle tourne dans La Ronde, mise en scène par Max Ophuls, et devenue depuis un grand classique. Examinons le synopsis de l'affaire Cicéron. En 1943, Diello, le valet de chambre de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Turquie, un pays alors neutre, propose à Moisisch, un attaché de l'ambassade du Troisième Reich, de lui vendre des microfilms révélant des documents britanniques classés top secret. Les Allemands apparaissent méfiants, en particulier l'ambassadeur Franz von Papen, ne voit en lui qu'un amateur non identifié, et craint surtout un piège ourdi par Londres, une manœuvre destinée à induire les autorités allemandes en erreur. L'homme est peut-être un escroc, peut-être même un agent anglais, tentant de nous livrer de fausses informations. Mais après en avoir référé au ministre des Affaires étrangères von Ribbentrop, le marché est finalement accepté aux conditions imposées par Diello. Les nazis décident alors de lui donner le nom de code Cicéron. Dès lors, le domestique britannique leur livre jour après jour des microfilms qui renferment de très précieuses informations stratégiques, telles les minutes de la conférence de Téhéran. À tel point que ces dossiers annoncent avec précision les lieux et les dates des futurs bombardements alliés, comme ceux qui doivent frapper les Balkans et qui ont effectivement bien lieu comme indiqué. Plus grave encore, les microfilms font également état du prochain débarquement de Normandie. Il est donc décidé à Berlin de poursuivre le transfert de données. Au quartier général de la Gestapo, le général Kaltenbrunner reste cependant incrédule et déclare à Moisisch « Trop beau pour être vrai, 25 documents top secrets d'un agent inconnu. Peut-on agir sur ce que l'on ne peut vérifier ? Je veux des faits, des preuves, des conclusions Quelle est l'identité de Cicéron? Ses motifs, à part l'argent, a-t-il des complices? Vous n'avez pas répondu à ces questions. C'est pourquoi, en dépit de l'infaillible exactitude des informations transmises par Diello, les Allemands n'entendent pas réagir tant qu'ils n'auront pas déterminé avec certitude l'identité de Cicéron. Ils refusent par exemple de prévenir les Roumains du prochain bombardement des Alliés, simplement pour vérifier et tester leurs sources. En fait, ils n'admettent pas que ces informations puissent être vraies et préfèrent voir des milliers de personnes périr et des millions de litres de pétrole et de gaz partir en fumée plutôt que d'intervenir préventivement. De même, la révélation d'une éventuelle entrée en guerre de la Turquie neutre aux côtés des Alliés les inquiète, certes, mais ne les conduit pas pour autant à réagir. Finalement, les Allemands se montrent plus attachés à ce qui leur paraît vraisemblable qu'à ce qui semble vrai. Là réside toute la capacité de manipulation de Diello. Ayant besoin d'une couverture pour masquer ses rendez-vous secrets avec les nazis, le valet propose à la comtesse polonaise ruinée et socialement déchue, Anna Slavisca, d'organiser des soirées mondaines où la diplomatie allemande pourrait se rendre officiellement, les allées et venues de ses représentants n'éveillant ainsi aucun soupçon chez les Britanniques. Mais Londres finit par s'apercevoir qu'il y a une fuite dans ses services et envoie à Ankara un agent du contre-espionnage. Au cours de son enquête interne, il n'apparaît toutefois guère possible à Colin Travers, l'agent spécial britannique, de démêler le vrai du faux, ce qui fait dire à l'ambassadeur effondré « Cicéron peut être n'importe lequel d'entre nous ». Grâce à l'achat de faux papiers, Diello réussit à changer d'identité et de nationalité et à s'enfuir. Initialement migrant albanais, naturalisé citoyen britannique, il devient donc après sa fuite un citoyen argentin, le Senore Roberto Antonini, époux de la Senora Antonini, à savoir la comtesse Anna Slavisca, qui ne sera cependant pas du voyage car elle décidera finalement de le trahir après l'avoir volé. Mankiewicz nous dépeint Diello comme un valet de chambre irréprochable, un modèle de perfection. Professionnel, respectueux de la hiérarchie, dévoué, déférent, prévenant, discret, efficace et stylé. Le domestique sait se rendre indispensable en permanence, tant il se montre systématiquement capable d'anticiper avec intelligence les moindres besoins et désirs de son maître, l'ambassadeur du Royaume-Uni. Ce dernier lui dit d'ailleurs sous une forme purement rhétorique, Diello, avez-vous envisagé la possibilité que vous pourriez oublier une seule fois quelque chose? Et le diplomate s'empresse de répondre à sa propre question par un compliment en forme d'hommage qu'il tient à adresser à son serviteur. Je ne crois pas que vous l'ayez jamais fait. À l'ambassade, Diello semble se plaire et se complaire dans son statut de dominé. Il donne même l'impression d'aimer la domination dont il est l'objet, car elle fonde et garantit son identité sociale. De même, auprès de la comtesse, il se conduit en premier lieu comme un valet servile et obséquieux, pliant sous le joug. Cependant, à la manière du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, Diello révèle une toute autre personnalité dès l'instant où il entre en contact avec les ennemis de son pays. En effet, auprès des nazis, les rôles sont inversés. Diello ne fait plus figure de domestique policé, distingué, soumis et obéissant. Il se montre au contraire le maître du jeu. C'est lui qui en fixe toutes les règles et qui domine la situation. Il impose son arrogance, il dicte ses conditions, il précise le déroulement des opérations, leur modus operandi et leur tempo. Lorsque le serviteur se retrouve à négocier avec les Allemands, il se montre d'abord et avant tout sûr de lui, autoritaire, cynique, vénal, cupide et insatiable. un cynisme, une vénalité, une cupidité et une insatiabilité qu'il assume pleinement et qu'il revendique même. Non sans arrogance, il prévient catégoriquement Moïsitch. Je vous donne 3 jours pour étudier ma proposition. Il refuse en outre de décliner son identité et son statut social, précisant qu'il n'est pas l'employé des Allemands. Je suis espion, de toute évidence, mais pas exactement, car les espions sont connus pour être médiocres en affaires. Ce sont des patriotes frustrés, libéraux, victimes de chantage, que leurs émotions affaiblissent. Hautain et dominateur, Diello n'hésite pas à s'exprimer auprès des nazis avec une franchise crue et brutale, sans faire mystère de ses objectifs. Loin de la moindre considération politique ou idéologique, il entend servir exclusivement son intérêt personnel et assouvir son désir d'emprise par un calcul rationnel sans faille. Son idéal se réduit à la somme d'argent qu'il va réussir à accumuler pour son seul profit et la satisfaction de son rêve. En fait, il cherche à amasser une fortune considérable afin de pouvoir s'enfuir en Amérique du Sud avec Anna Slaviska, dont il fut jadis le domestique. Par ailleurs, il ne cache pas l'immense mépris dans lequel il tient les nazis. Vous êtes vraiment sans imagination, lâche-t-il à Moïsitch. Mais l'on comprend clairement qu'il englobe tout le régime nazi dans cette considération. Il fait même très ostensiblement état de son dédain auprès d'eux. Multipliant à l'envi les remarques goguenardes et désobligeantes, par exemple, lorsqu'il suggère à Moïsitch de changer la combinaison de son coffre, il lui propose la date de la célèbre bataille de Waterloo, grande victoire britannique. Mais il sait aussi se montrer très clairvoyant. Ainsi va-t-il jusqu'à jeter à la face de ses interlocuteurs allemands qu'ils se montreront de toute manière incapables de gagner la guerre, malgré les précieuses informations qu'il leur communique. Cette histoire d'espionnage en temps de guerre répond certes aux lois du genre. Elle ménage en effet de bout en bout un suspense certain qui se clôt par un fameux et ultime coup de théâtre où l'on voit un traître trahi, un voleur volé, un manipulateur manipulé. Mais l'œuvre de Mankiewicz dépasse largement ce cadre pour servir magistralement une ambition bien supérieure. En effet, son film ne se réduit pas à une intrigue bien ficelée et bien jouée. Il invite surtout à mener une réflexion sur les facettes complexes et multiples de la domination. Ainsi, celle-ci se décline-t-elle sur le plan individuel à travers la relation perverse que Diello entretient avec la comtesse Slaviska, une relation sadomasochiste, faite d'humiliations itératives et où chacun se montre tour à tour le maître dominateur et le dominé soumis et rabaissé. Il s'agit aussi d'une relation de séduction et de sensualité qui se fonde précisément sur ce jeu trouble, sadomasochiste, où le pouvoir paraît et disparaît sans cesse dans les méandres du vrai et du faux. Sur le plan sociologique, la domination prend pour sa part la forme d'une terrible revanche sociale, celle d'un serviteur qui cherche à dynamiter les hiérarchies sociales et à s'affranchir de son rang, celle d'un domestique humilié qui fait payer la subordination qu'il a subie et à laquelle il a dû se soumettre un temps, celle d'un homme qui se venge de toutes les vexations qu'il a dû endurer, confiné dans un rôle social qu'il n'a jamais accepté, celle d'un valet ayant cru acheter une comtesse qui lui donnait jadis des ordres et qu'il servait. Enfin, la domination telle que Mankiewicz la met en exergue, c'est aussi celle d'un individu solitaire, bien décidé, en pleine guerre mondiale, à perturber le jeu des États avec comme seul objectif celui de faire prévaloir son propre intérêt. Il préfigure donc ainsi le fameux mixing micro-macro que théorisera James Rosenau dans les années 90. Diello incarne cet individu égoïste dont le politiste américain a construit l'idéal type. Un individu sans foi ni loi qui n'entend faire allégeance à aucun État, quand bien même ce dernier serait en proie aux pires menaces et engagé dans une guerre mondiale. Dans l'affaire Cicéron, Mankiewicz nous dépeint donc un parfait nihiliste qui s'emploie à subvertir tous les codes, qu'ils soient sociaux ou politiques, ou bien qu'ils relèvent des sentiments moraux ou amoureux. Mais dans l'ultime rebondissement du film ménagé au spectateur, le metteur en scène indique clairement que les déterminismes sociopolitiques demeurent en dernière instance les plus puissants. Seuls, ils peuvent triompher et avoir finalement raison de Diello.